France Inter.
Il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un pays en guerre contre ses narcos, c'est le Mexique. Hier, son armée a tué le trafiquant le plus puissant du continent américain. En représailles, ses partisans déclenchent des violences. La France appelle ses concitoyens, touristes ou résidents, à se mettre à l'abri. Explication dans un instant. Et nous allons plus loin avec notre invité. À suivre encore la très lente décrue dans l'Ouest. On remet les routes en état, ici en Charente-Maritime.
On peut voir des fissures, on peut avoir des nids de poules. Des arbres, des branches sont tombées aussi. Quand on constate tout ça, on va faire intervenir les collègues pour enlever tout ce qui risque d'être dangereux pour les usagers.
Reportage dans quelques minutes. Les élections municipales. La ministre de la Culture, Rachida Dati, candidate à Paris, fait tout pour rester au gouvernement. Nous verrons cela. Et puis cette information importante pour tous ceux qui veulent rénover leur logement. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
La réouverture il y a quelques minutes du guichet MaPrimeRénov.
Oui, réouverture après des mois de stop and go, afflux trop important de dossiers l'an dernier, puis blocage du dispositif en raison du retard pris sur le budget 2026. Les aides ont été réduites et déjà beaucoup, beaucoup de dossiers en attente. On va voir ça.
A tout de suite pour vos explications. À partir de 13h30, les nouvelles technologies en agriculture pour faire face par exemple aux sécheresses, consommer moins d'engrais. Justine Lipuma, vice-présidente de la Ferme Digitale, est notre invitée. Elle participe en ce moment au Salon de l'Agriculture. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton. Nous passons cette semaine dans les labos de la police technique et scientifique.
Un collègue m'a demandé si on pouvait faire des analyses toxicologiques pour un cheval. Une histoire d'empoisonnement potentiel. J'avoue que oui, sur le coup, j'ai été un peu surprise par la question.
13h50, c'est la France. Le championnat du monde de chou farci, c'est très sérieux, a lieu aujourd'hui. On en parle avec Cécilia Arbona. Juste avant 14h, c'est une chanson. Knocking on Heaven's Door, version Guns N' Roses. Et puis le retour en France des médaillés olympiques. Dans quelques minutes, nous serons à Albertville et nous ferons connaissance avec une championne des JO de 1948. Elle fête ses 100 ans aujourd'hui. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il était le baron de la drogue, le plus puissant du continent américain. Le plus discret aussi, car il était le plus recherché. Le Mexicain Nemesio Oseguera Cervantes, 59 ans, dit El Mencho, son diminutif. Cet homme a été tué hier lors d'une opération de l'armée mexicaine dans l'ouest du pays. Mais ce qui frappe aussi aujourd'hui, c'est la réaction des membres de son cartel qui n'ont pas hésité dès hier soir à déclencher des violences dans une vingtaine d'états du pays, autoroutes bloquées, véhicules incendiés, à tel point que les écoles d'une dizaine de ces états restent fermées aujourd'hui. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Jérôme.
Le Mexique est un pays en état d'alerte.
Oui, et l'annonce de sa mort a fait la une de tous les JT hier au Mexique.
El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico. Nemesio
Oseguera alias El Mencho a été abattu lors d'une vaste opération menée par l'armée mexicaine avec l'aide des renseignements américains. C'était à Tapalpa, à 140 km de Guadalajara, dans l'ouest du pays. Et la nouvelle s'est rapidement répandue dans les rangs de son organisation qui compte près de 30 000 membres à travers tout le pays. Ces hommes sont aussitôt descendus armés dans les rues de plusieurs villes pour affronter l'armée et les policiers. Ici, c'est à Puerto Vallarta, station balnéaire très touristique. Vidéo partagée par des témoins sur les réseaux sociaux. Des émeutes, incendies, pillages ont éclaté dans une vingtaine d'états mexicains.
Ça en dit long, Ajra, sur le poids de ce cartel dirigé par cet homme qui a connu une ascension express.
Oui, El Mencho est né dans une famille pauvre du Michoacán, dans l'ouest du Mexique toujours. Il avait lancé en 2009 son cartel, le CJNG, Jalisco Nueva Generation, devenu l'un des plus puissants du pays, connu pour faire du trafic de fentanyl, de cocaïne, d'héroïne, mais aussi d'armes, de pétrole et de migrants. Mais surtout, contrairement aux autres barons de la drogue, il allait presque chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. Il les défiait. Ces narcos ont par exemple tendu des guet-apens à des convois de policiers ou ont abattu un hélicoptère militaire au lance-roquettes.
Merci Ajra Mohamed pour ces précisions. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes politologue, membre de l'unité Sud Globale à la London School of Economics. Gaspard Estrada, la stratégie du Mexique, ça a longtemps été de ne pas attaquer frontalement les cartels, en quelque sorte de laisser faire. Est-ce que l'opération d'hier marque un tournant ?
Oui, cela marque un tournant. La présidente Claudia Sheinbaum montre d'une part qu'elle souhaite affronter les cartels d'une façon beaucoup plus directe comparée à son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, mais je pense qu'il faut aussi voir cette opération comme un signal vis-à-vis des États-Unis et de Donald Trump. Donald Trump qui, durant sa campagne électorale, n'avait pas hésité à catégoriser ces organisations narcotrafiquantes comme des organisations terroristes et n'avait pas exclu la possibilité d'envahir le Mexique pour mener des attaques contre ces organisations. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait eu cette opération, c'est aussi un signal qui est envoyé aux États-Unis dans le cadre d'une coopération qui, de fait, a été bilatérale.
Un signal, c'est-à-dire un gage, en fait. Dire à Trump, regardez, on fait des choses, on ne reste pas les bras croisés.
Absolument, d'autant plus que selon la presse mexicaine, cette opération a été menée à bien avec l'aide de renseignements américains.
Est-ce qu'il faut maintenant, Gaspard Estrada, on a vu la réaction des membres de ce cartel avec des incendies déclenchés, avec des routes coupées dans une vingtaine d'États du pays. Est-ce qu'il faut craindre une explosion généralisée de la violence? Je rappelle que ces violences liées au cartel ont fait depuis 20 ans maintenant 450 000 morts dans le pays. Jusqu'ici, il y avait plutôt un accord, notamment pour préserver des intérêts économiques, les intérêts touristiques par exemple.
Oui. On peut s'attendre à ce que à court terme, il y ait davantage de violence. D'une part, parce que cette organisation souhaite mettre en lumière ce mécontentement, mais aussi parce qu'il y aura des recompositions internes au cartel. Il y aura des personnalités qui chercheront à prendre la place de ce leader. Il y aura d'autres organisations qui profiteront de cette fragilité à court terme pour essayer de récupérer d'autres positions. Mais la question centrale de mon point de vue, c'est est-ce que l'économie du crime sera réellement affectée? J'ai des doutes. En Colombie, Pablo Escobar, lui aussi, est mort. Pour autant, la Colombie n'a pas cessé d'exporter de la cocaïne.
Une autre tête peut prendre la place d'El Mencho, c'est ce que vous nous dites?
Absolument. Et de ce point de vue-là, la question de l'approche globale de la lutte contre la drogue qui, de mon point de vue, pose question.
Merci Gaspard Estrada d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, politologue, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics, pour nous éclairer donc sur la situation au Mexique. Lui est accusé de crimes contre l'humanité commis dans son pays, les Philippines, et dans le cadre de sa lutte contre les consommateurs et les trafiquants de drogue. L'ancien président philippin Rodrigo Duterte, 80 ans, les audiences ont débuté ce matin devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Duterte arrêté en mars dernier dans son pays, pour avoir commis ou ordonné des dizaines de meurtres. Il nie ces accusations. Cette affaire montre que les puissants ne sont pas au-dessus des lois, déclaré ce matin le procureur adjoint de cette Cour pénale internationale. Et puis le cri d'alarme des autorités de Cuba. Le ministre cubain des Affaires étrangères dit ce matin que les États-Unis veulent provoquer dans son pays une catastrophe humanitaire. Donald Trump a encore renforcé le blocus autour de Cuba ces dernières semaines, notamment le blocus pétrolier.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Moins de pluie, davantage de douceur, jusqu'à 25 degrés dans le sud du pays, 21 degrés dans le nord. Ça, ce sera pour mercredi. Ça vous donne une petite idée du menu météo de cette semaine, qui est donc favorable à la décrue dans l'ouest. Elle est engagée, mais elle est très lente. Toujours trois départements en vigilance rouge. Loire-Atlantique, Charente-Maritime et Maine-et-Loire, et plus que deux en orange. La Charente et la Sarthe. Vous êtes dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Qui était en rouge il y a encore quelques jours, mais ça va mieux. L'eau, Rémi, commence à se retirer dans certains villages et c'est donc l'heure du nettoyage.
Oui, dans ce hameau de Coussant en bord de Garonne, en zone inondable, une trentaine de bénévoles et 10 agents de la ville débarquent ce matin. Un soulagement pour Eugénie Merlet et son mari. Septuagénaires, ils vivent leur troisième crue en 50 ans sur place.
Est-ce que vous voulez qu'on amène les sacs là-bas?
Si vous voulez, mais ils sont lourds parce que j'ai sorti les pâtes, le riz. Alors là, l'eau, elle est montée. Bernard, où c'est qu'elle est montée, l'eau, là? Dis-leur.
Elle est montée au pied de l'établi, quoi. Vous aviez monté le congélateur à l'étage?
Juste là où est mon mari, là. Juste là, on n'a pas pu le monter plus haut.
Alors les bénévoles aident à remettre les meubles en place.
Ça fait quelque chose de les voir comme ça, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être comme ça, entouré et tout.
Un peu plus loin, Grégory s'affaire dans un autre jardin. L'eau est encore tout près, il est venu donner de son temps.
Comme j'ai vu hier sur Facebook que l'a vu le maman chercher des volontaires, j'ai dit à mon copain, viens, on va les aider. On l'aide à retirer les branches et puis après, bon, je pense qu'on va nettoyer la maison, quoi.
Ici, il faut tronçonner un pin qui s'est effondré. Un peu plus loin, chez Patricia, les bénévoles usent du jet d'eau pour dégager la boue.
C'est vraiment formidable ce qu'ils font. Je tiens à les féliciter. Ça a été assez éprouvant parce qu'on voyait que ça montait, puis on ne peut rien faire. Dans ces cas-là, évidemment, c'est mon garage. Tout le sous-sol était inondé.
Vous n'avez pas voulu partir ?
Non.
Les agents et les bénévoles repasseront dans quelques jours pour évacuer l'électroménager après le passage des experts des assurances.
Rémi, est-ce qu'il y a encore des perturbations là où vous vous trouvez ?
Eh bien, la décrue est bien amorcée. Jérôme, la Garonne est à 5 mètres, un peu plus de 5 mètres. Elle avait dépassé les 8 mètres. Les routes principales sont globalement dégagées, mais l'accès à certaines communes reste difficile, comme Couture-sur-Garonne, tout près d'ici. Et ce matin, c'était la rentrée scolaire. Tous les élèves sont accueillis dans l'académie de Bordeaux. Et puis, près de Langon, en Gironde, pas très loin d'ici, il n'y a toujours pas d'eau potable dans 7 communes. La remise en état des réseaux d'eau prendra quelques jours.
Merci Rémi Brancato, en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Plusieurs noms à Saintes, en Charente-Maritime. Là encore, la rentrée ce matin s'est déroulée quasi normalement. 3 écoles ont tout de même été déménagées dans des établissements voisins. Mais c'est l'état des routes qui occupe surtout les agents. Beaucoup ont été dégradés. Il faut maintenant les réparer. Léa Bouquet a suivi une patrouille.
Alors, ben, je vous emmène en patrouillage sur le RD231E1 en direction du Douai.
Cyril Perret gère une équipe de 13 agents sur le centre de Saintes. Avec sa camionnette et son gilet orange, il fait le tour des dégradations causées par les dernières crues.
On peut voir des fissures, la couche de roulement qui est dégradée. On peut avoir des nids de poules, des arbres, des branches sont tombées aussi. Quand on constate tout ça, on va faire intervenir les collègues pour enlever tout ce qui risque d'être dangereux pour les usagers.
Il surveille aussi que les panneaux de signalisation soient bien à jour. On arrive là au niveau d'une chaussée immergée.
On va faire intervenir les collègues pour poser des panneaux. Oui, Xavier ?
Ouais.
On est sur le 231E1.
Oui.
Il y a de l'eau sur la chaussée, donc il faudrait prévoir des panneaux. Tu sais, dans le virage où ça inonde d'habitude, quoi.
Ok, pas de souci. J'envoie les gars.
Merci.
Un travail de balisage qui demande des agents sur le terrain au quotidien, de jour comme de nuit, face à un phénomène plus qu'exceptionnel cette année, rappelle Nathalie Corderoc, la directrice adjointe des infrastructures du département.
Il est rare qu'on ait 150 routes départementales en même temps d'impacter ou barrer avec des phénomènes comme ça, quoi.
Un réseau, pour l'anecdote, qui se retrouve à sec de panneaux de signalisation pour les inondations. Heureusement, la décrue à Saintes est sur le point de commencer.
Reportage ici, La Rochelle. Je vous parlais de la rentrée scolaire il y a un instant. C'est donc ce matin pour la zone A, y compris pour Lyon, à Sciences Po Lyon. Les élèves ont fait leur retour en cours 10 jours après l'agression mortelle d'un militant d'extrême droite, Quentin de Ranque, en marge d'une conférence donnée à Sciences Po par l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, et 2 jours après une marche hommage dans les rues de la ville. Notre correspondante à Lyon, Mathilde Imberti, assistait à cette rentrée ce matin avec une sécurité renforcée.
Plusieurs agents de sécurité postés dans les locaux, la carte d'étudiant à présenter systématiquement, rassurant pour cette jeune fille de 22 ans en 4e année.
Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils contrôlent l'entrée, ils contrôlent nos cartes, nos sacs, donc on sait qu'il n'y a pas n'importe qui va rentrer dans le bâtiment. Moi, j'étais un peu inquiète en vérité, mais après, ça n'a pas nous empêché d'aller en cours. Enfin, nous, on fait nos études, point.
Et c'est aussi l'appréhension des proches qui s'est exprimée en cette rentrée.
Assez stressée, surtout que mes parents, à la base, ils ne voulaient pas que je retourne à Lyon, parce que voilà, avec tout ce qu'on a pu potentiellement lire sur les réseaux sociaux, ça ne les rassurait pas forcément. Moi, j'ai tenu à retourner parce que je sais que j'ai rien à me reprocher, en tout cas.
Cet étudiant assistait jeudi 12 février à la conférence de Rima Hassan. Depuis, dit-il, comme l'une de ses amies, c'est une déferlante anti-Sciences Po sur les réseaux.
Je suis élue étudiante et on m'a fait remonter soit l'administration qui a passé la semaine à recevoir des appels de menaces. Aller sur Twitter, regarder, il y a des menaces sur la directrice. On dit n'importe quoi, ça traite les étudiants comme si on soutenait des terroristes, etc. Alors qu'on va à une conférence. Enfin, je veux dire, on arrive à des stades qui sont quand même assez fous. Donc, il faudrait aussi remettre les choses à leur place. Je pense que c'est très important.
Leur crainte que la liberté d'expression, celle d'inviter des interlocuteurs de tous bords politiques, soit à terme mise à mal. En dehors des mesures de sécurité, une cellule d'écoute est également mise en place à Sciences Po Lyon.
En Seine-Saint-Denis, commune des Lilas, un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne a été placé en garde à vue la nuit dernière. La victime a reçu des coups de couteau et un coup de marteau. Les 4 enfants du couple étaient au moment des faits chez leur grand-père, et le père de l'homme qui a été interpellé a expliqué à la police que son fils souffrait de schizophrénie. La campagne des élections municipales, les candidats ont jusqu'à jeudi 18h pour se déclarer. Et cette campagne a des conséquences sur la composition du gouvernement, puisque le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a demandé aux ministres, également tête de liste, de rendre leur portefeuille. À commencer par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle devait normalement quitter son poste avant hier soir. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Mais elle fait tout pour rester.
Oui, et ça marche. Rachida Dati encore en poste, malgré la promesse de Sébastien Lecornu de remanier avant le 22 février, dernier carat, et malgré l'engagement qu'elle avait elle-même pris publiquement, c'était en janvier, sur France Inter.
Je respecte toutes les règles déontologiques, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais bien sûr que je quitterai le gouvernement.
À quelle date ?
Écoutez, je ne vais pas vous dire ici quand, mais je
quitterai. Non, mais vous pourriez. Alors, pourquoi est-elle encore là aujourd'hui ? Matignon se contorsionne pour justifier et invoque une motion de censure du RN qui pourrait être examinée cette semaine. Ce serait une mauvaise manière faite aux députés de remanier juste avant, ce sera donc après, mercredi au plus tôt. Mais en réalité, c'est Rachida Dati qui a obtenu de rester un peu plus. Elle ne veut pas partir, la dame, s'agace un ministre, et elle en a convaincu Emmanuel Macron, qui a toujours été très indulgent avec elle, analyse une source gouvernementale. Elle a voulu prolonger notamment pour pouvoir nommer le ou la successeur de Laurence Descartes à la tête du Louvre, nomination prévue ce mercredi. Mais a-t-elle seulement l'intention de partir un jour ? Ou veut-elle se servir du ministère de la Culture comme d'une piste d'atterrissage en cas d'échec à la mairie de Paris ? Je ne peux pas y croire, assure un ministre. Elle va partir et en même temps que les autres, s'agace un proche de Sébastien Lecornu, dont la parole est fragilisée par le cas Rachida Dati, ce remaniement confus en deux temps et hors des clous du calendrier qu'il avait lui-même annoncé.
Merci Marie Mollet pour ce décryptage. Alors pour faire votre choix pour ces élections municipales, vous avez évidemment accès au programme des candidats. Mais certains électeurs ont besoin de plus. Les personnes avec déficience intellectuelle par exemple. Ainsi, dans les Côtes d'Armor à Dinan, une maison d'accueil spécialisée vient de mettre au point un jeu de société baptisé Jeu J-E-U. Vote. L'idée, Joanne Moison, c'est d'apprendre à voter.
Oui, car depuis 2019, les personnes majeures sous tutelle, y compris celles avec une déficience intellectuelle, ont toutes le droit de voter. Avant, ce droit pouvait leur être retiré par décision judiciaire. Alors ici, à Dinan, dans cette maison d'accueil spécialisée, les professionnels ont d'abord mis en place des ateliers hebdomadaires de formation à la citoyenneté, avant d'imaginer un jeu de société pour aider les résidents à mieux comprendre le vote et ses enjeux. Autour de la table, Marina adore y jouer.
Ça nous apprend à voter, je suis très contente et ça m'a appris beaucoup de choses.
Et Marina compte bien aller voter au municipal.
Nous allons aller voter à Dinan avec Karine et Johan. Je suis la première candidate à vouloir y aller.
Johan, c'est Johan Le Magadou, coordinateur de service à la maison d'accueil spécialisée des Chandéoles. Avec deux collègues, il est à l'origine du jeu « Je vote ».
Il y a des déficits cognitifs, de compréhension des choses. Il y a des troubles psychiques, il peut y avoir des troubles moteurs. Face à ça, en fait, il faut quand même leur donner de l'équipement pour aller voter, pour comprendre ce pourquoi ils vont voter. Donner du bagage intellectuel, le répéter toutes les semaines, un peu comme à l'école. Et puis, en fait, faire émerger des choix, leurs choix.
Je vote va être distribué gratuitement à plusieurs établissements spécialisés partout en France avant les élections municipales.
Reportage ici, Armorique. 4 ans presque jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, la Russie n'a pas réussi à faire exploser l'Union européenne. Les 27 sont quasiment unanimes pour décider cet après-midi d'un 20e paquet de sanctions contre Moscou, contre ses secteurs énergétiques et financiers notamment. Mais comme depuis 2022, la Hongrie de Viktor Orban traîne des pieds. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Fabien, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Alors la Hongrie dit qu'elle va s'opposer à ces nouvelles sanctions. Jusqu'ici, elle a toujours fini par céder. Pourquoi est-ce différent cette fois-ci ?
Parce que Viktor Orban est en campagne pour sa réélection dans 2 mois en Hongrie, en mode eurosceptique. Fermeté maximale donc à l'égard de l'Union européenne et de sa volonté d'infliger de nouvelles sanctions à la Russie. Les autres États membres européens, dont la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comptent bien mettre la pression sur la Hongrie aujourd'hui et dans les jours qui viennent.
La question n'est pas de savoir si le 20e paquet de sanctions sera adopté, il le sera, c'est une certitude, c'est le 20e, c'est la 20e fois qu'on fait cet exercice. La question est de savoir quand il le sera, il viendra s'ajouter à un grand nombre de sanctions qui pèsent aujourd'hui sur les ressources que Vladimir Poutine engouffre dans son effort de guerre.
Le ministre polonais Radoslav Sikorski renchérit, arborant comme ses homologues une cocarde bleue et jaune en soutien à l'Ukraine sur sa veste, n'hésitant pas à convoquer l'histoire.
Ce qui me choque profondément, c'est que l'Ukraine se défend contre l'armée russe alors que la Hongrie a elle aussi été envahie par l'armée rouge au XXe siècle. Les Hongrois savent ce que c'est. Je me serais attendu à plus de solidarité de leur part envers l'Ukraine.
La Hongrie accuse pour sa part aujourd'hui l'Ukraine d'entraver son approvisionnement en pétrole russe via un oléoduc qui traverse son territoire.
Merci Fabien Cazot pour ces précisions en direct de Bruxelles. J'ajoute que le 18-20 présenté par Fabienne Sintès sera ce soir en direct de Kiev. Ce matin, le Parlement européen lui a décidé de suspendre la mise en œuvre de l'accord commercial qui avait été signé l'été dernier entre l'Union européenne et les États-Unis. Un accord qui limitait la hausse des droits de douane à 15%. Oui, mais depuis, notamment vendredi dernier, ces droits de douane décidés par Donald Trump ont été invalidés par la Cour suprême américaine. Toujours au rayon économique, le guichet d'aide publique pour la rénovation de votre logement MaPrimeRénov a rouvert il y a quelques minutes après des semaines de gel. Claire Chaudière, on vous retrouve, spécialiste logement à la rédaction de France Inter. Réouverture très attendue, Claire. Mais attention, les aides ont été resserrées.
Oui, en cours d'année dernière, pour les rénovations d'ampleur d'abord, qui englobent plusieurs types de travaux. Il n'y a plus d'aide pour les logements étiquette C et D, uniquement pour les passoires E, F et G. Et les plafonds de travaux éligibles sont abaissés de 70 000 à 30 ou 40 000 euros selon le gain énergétique après travaux. Ce n'est pas rien, mais le reste à charge va bondir, notamment pour les ménages très modestes. Quant aux travaux qui ne rentrent pas dans un projet global, l'isolation des murs n'est plus subventionnée, les systèmes de chauffage biomasse non plus, les combles le reste, tout comme certaines pompes à chaleur pour lesquelles on peut aussi compter sur un coup de pouce via les C2E, les certificats d'économie d'énergie.
Mais avant de traiter de nouveaux dossiers, il faut déjà écluser ceux qui sont en souffrance. Il y en a plus de 80 000.
Et ouais, 83 000 au total à financer sur le budget 2026, ce qui fait dire au ministère du Logement qu'il faut s'attendre à environ 6 mois d'attente pour un dossier de rénovation d'ampleur, 3 mois pour les travaux par geste. Il va donc falloir être patient et rien ne sert de se précipiter, prévient la plateforme, au risque de voir son dossier encore plus retardé, car c'est la nouveauté de cette réouverture. Pour éviter les fraudes et les devis gonflés ou mal calibrés, un passage devant un conseiller France Rénov est désormais obligatoire pour les travaux de rénovation d'ampleur, en plus du suivi effectué par les accompagnateurs Rénov.
Claire Chaudière, plus de femmes dans les postes de direction de nos grandes entreprises. À partir du 1er mars, la loi va obliger les entreprises de plus de 1000 salariés à compter au moins 30% de femmes dans leurs plus hautes instances. Eh bien, cette loi devrait être respectée. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour.
Dans les entreprises du CAC 40, les comités exécutifs sont composés de 29% de femmes, plus 9,5 points par rapport à 2021, nous dit l'observatoire Schema. Et c'est bien la loi Rixin qui l'explique.
Oui, une loi votée fin 2021. Elle s'appelle loi Rixin tout simplement parce que c'est le nom de la députée qui en est à l'origine, Marie-Pierre Rixin, députée EPR. Une loi qui impose donc un quota de 30% de femmes au sein du comité exécutif des grosses entreprises. Le comité exécutif, c'est l'endroit où sont prises les décisions très importantes, comme la stratégie à suivre, les investissements à faire. Il faut donc 30% de femmes à partir de mars, puis 40% à partir de 2029. Et c'est en bonne voie, nous dit Michel Ferrari, le directeur de l'observatoire Schema de la féminisation des entreprises.
On voit que sans la loi, il n'y a pas vraiment de changement. Donc c'est vraiment la loi qui a provoqué un changement. Il y a certaines entreprises qui sont des bons élèves, hein, qui sont déjà même aux 40% de 2029 que prévoit la loi Rixin. Je pense à des entreprises comme Accor, BNP ou Kering. Et puis, il y a d'autres entreprises qui sont un peu en retard et qui vont avoir du mal à être à 30% le 1er mars.
Mais oui, comme Bouygues ou Arcelor qui ne seront pas à 30% début mars, c'est dans une semaine. Du positif donc, mais le chemin reste long parce que dans les faits, quand on zoome sur les postes occupés par les femmes dans ces comités exécutifs, on voit très peu de femmes aux postes très importants. Seulement 2 présidentes sur les 26 présidents et seulement 4 directrices générales sur les 26 directeurs généraux.
Encore des efforts à faire, donc merci Lou Bourdi. Là, nous sommes au-delà de la parité puisque la majorité des médailles ramenées par l'équipe de France des Jeux d'hiver de Milan-Cortina, la majorité de ces médailles a été ramenée par des sportives. Eh bien, tous ces médaillés sont attendus cet après-midi à Albertville, en Savoie, pour être fêtés, mais aussi pour prendre rendez-vous avant les prochains Jeux dans 4 ans qui auront lieu dans les Alpes françaises. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous êtes sur place, vous attendez les sportifs. tout comme le public autour de vous qui a envie de prolonger la fête.
Oui, Albertville qui se prépare au grand retour, hein, c'est le nom donné à cette journée. Le quartier autour du parc olympique, là où se passeront les festivités, est bouclé petit à petit. Les athlètes de l'équipe de France arrivent par bus entier en toute décontraction. Patrick a croisé les champions olympiques de ski alpinisme, Émilie Arop et Thibaut Anselmet.
J'ai reconnu tout de suite, ouais, de toute façon j'ai vu avec leur habit de la délégation française. Et puis après, ben, les visages... Quand tu les vois à la télé, après, c'est assez familier quand tu les vois comme ça.
Patrick, hein, qui s'est pris au jeu des Jeux.
Les Jeux, je les suivais un peu de loin, mais là, j'ai regardé toutes les épreuves. C'était royal. Hier soir, quand c'était fini, j'avais les larmes aux yeux.
Tout comme Thérèse, hein, une habitante d'Albertville qui a vibré au rythme des médailles.
H24 devant ma télévision. D'autant plus, je suis très attirée par le biathlon. Je connais un peu Justine et Julien. Okay. Parce qu'elles sont des saisies et moi j'ai travaillé aux saisies.
Voilà, le biathlon de Julia Simon et Justine Brézat-Boucher, le poids lourd du bilan français, Jérôme.
Bon, il s'agit aussi de se tourner vers 2030, contexte très incertain avec des départs en cascade au sein du comité d'organisation. Ça ne refroidit pas l'ambiance ?
Bah, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur démarrage, hein, pour un dossier complexe, mais ici à Albertville, on veut croire, on veut qu'Albertville retrouve un souffle olympique à l'image du drapeau aux anneaux qui va flotter à partir de ce soir, 34 ans après. Francis et Alain étaient bénévoles en 1992 et ils attendent pour 2030 un événement aussi attractif que celui qui vient de s'achever en Italie.
Au moins aussi bien, si ce n'est mieux, on fera en sorte que ça se fasse bien.
Faut pas être inquiet, parce qu'on sait que le sport quand même, il est générateur de tout ce que les gens aiment. Donc non, pas inquiet plus que ça.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait le déplacement aujourd'hui. Il déjeune en ce moment avec des athlètes et il aura quelques heures pour tenter de redonner un cap au dossier tricolore.
Notre duo olympique en direct d'Albertville, Jérôme Val avec Benjamin Troncin. Alors quel souvenir ces sportifs vont-ils garder de ces Jeux 2026 ? Je vous propose de donner la parole à une centenaire dans ce 13-14. Elle se nomme Micheline Deplanque. Elle souffle ses 100 bougies aujourd'hui et en 1948 à Saint-Moritz en Suisse. Elle a disputé les premiers Jeux olympiques d'après-guerre. Elle, l'enfant du Nord, Romane Porcon, elle vous a raconté son histoire à Croix, où elle vit aujourd'hui dans une résidence pour seniors.
C'est grâce à son père que Micheline chausse des skis pour la toute première fois à 6 ans.
Tous les ans, il nous emmenait aussi en montagne. Et pour nous encourager, au début, il nous mettait des notes avec mes sœurs.
Micheline a du talent, elle est très vite repérée. Après avoir intégré le ski club du Nord, elle rejoint l'équipe de France.
J'étais 4 ans dans l'équipe de France, donc j'ai fait un album par an. Au-dessus de l'armoire, regardez, j'ai des médailles qui sont sur les murs, regardez là-bas.
T'es accroché ?
Ouais.
Par contre, aux Jeux Olympiques, vous avez pas réussi à remporter l'épreuve.
C'était ma première compétition. Hein. Moi, quand je prenais le départ, j'avais les jambes coupées. On avait un trac, c'était épouvantable.
À l'époque, la nordiste a seulement 22 ans lorsqu'elle participe aux JO d'hiver à Saint-Moritz, en Suisse.
C'est les premiers Jeux Olympiques après-guerre. On était moins nombreux, mais une trentaine de pays qui étaient représentés. Hein. Je vois rien qu'au point de vue équipement. Nous, malheureusement, on n'avait pas ce qu'on appelle les doudounes. On avait des petits coupants, mais légers. On avait froid. Tout le matériel était beaucoup moins bien.
Micheline termine 29e de la descente. À l'aube de ses 100 ans, elle suit désormais attentivement les épreuves à la télévision entre deux parties de bridge.
Et aujourd'hui, il y a les doudounes. Reportage ici Nord, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure. On va pouvoir poser les doudounes cette semaine, la météo très douce. À suivre de Stéphanie Fromentin. Et puis à partir de 13h30, à l'occasion du Salon de l'agriculture, nous parlons de l'agritech, les nouvelles technologies qui changent le visage de l'agriculture. Notre invitée développe des champignons mycorhiziens comme engrais naturel. Elle va tout nous expliquer. Puis j'attends vos appels. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, la police technique et scientifique, nous ouvre ses portes toute cette semaine. On va parler de l'ADN, mais pas uniquement. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona et Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous emmenez à Limoges.
Au cœur du magasin d'usine Bernardo, pas pour parler porcelaine, mais chou farci.
C'est plus inattendu. Et avec vous, Julien, un metteur en scène.
Olivier Soliveres, qui met en scène Le Cercle des Poètes Disparus et Amadeus au théâtre, et qui nous parle de Knocking on Heaven's Door des Guns N' Roses.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure. France
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce lundi, je vous raconte la chute du prince Andrew en octobre dernier, épilogue d'une trajectoire marquée par le narcissisme, la vulgarité et des liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Affaire sensible, tous les jours à 15h sur France Inter.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence.
DAB+. Trois lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-et-plus.fr.
À partir de 65 ans, on a plus que jamais envie de... bouger !
Profiter.
S'éclater.
Se dépasser.
Ne laissez pas la pneumonie à pneumocoque vous priver de ces moments de vie. Avec l'âge, votre système immunitaire s'affaiblit. La vaccination et les gestes barrières peuvent vous protéger de conséquences parfois graves. Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes à risque. Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cette campagne d'information est à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme Cadet.
Bon ben voilà, ça se calme.
Ben oui, l'anticyclone remonte, il permet la situation d'évoluer plus sereinement. C'en est fini des valses des perturbations pour l'instant, mais Météo France maintient donc quand même les 5 départements de l'Ouest en cru. Cet après-midi, les périodes ensoleillées dominent de l'Aquitaine à l'Occitanie jusqu'aux Alpes. Au nord, le ciel reste encore un peu nuageux avec quelques pluies par moment, des éclaircies qui parviennent à se développer de la Normandie à la Picardie. Et près des côtes du Pas-de-Calais, le vent d'Ouest reste sensible, il se maintient par rafale de 50-60 km par heure.
Et toujours de la douceur.
Cette douceur s'est maintenue sur les zones ensoleillées jusqu'à présent, mais elle s'établit aujourd'hui à l'ensemble du territoire. Il fera 11 et 15 degrés sur la moitié nord, entre 14 et 19 au sud, jusqu'à 19 et 22 degrés près de la Méditerranée.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Justine Lipuma.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14 pour parler agriculture à l'occasion du salon qui s'est ouvert ce week-end, Porte de Versailles à Paris. Mais l'agriculture de demain, celle que vous préparez avec votre entreprise Mico Phyto, créée il y a près de 10 ans, basée à Grasse, oui, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes microbiologiste et vous proposez aux agriculteurs d'utiliser des champignons pour les aider à cultiver leurs tomates, leurs vignes, la lavande, entre autres. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Je précise aussi que vous êtes vice-présidente de l'association La Ferme Digitale, qui fête en ce moment ses 10 ans de présence au salon La Ferme Digitale, qui regroupe 100 acteurs de ce qu'on appelle l'agritech. Donc on va parler des champignons, mais pas uniquement avec les auditeurs, qui sont déjà nombreux à nous appeler, 01 45 24 7000. Vous n'oubliez pas l'onglet Réagir sur l'application Radio France pour nous écrire ou pour nous envoyer une note vocale. Justine Lipuma, des champignons pour faire pousser des plantes. Comment ça fonctionne? Au fond, c'est observer la nature, c'est comme ça que ça marche.
Exactement, le principe il est basé sur ce qu'on appelle de la bio-inspiration. Donc on s'est en effet inspiré de ce que se faisait de mieux de la nature et on y a rapporté une petite touche de technologie pour arriver à accompagner les agriculteurs dans leurs enjeux. Et en fait, ces champignons, dans des forêts, dans des terrains naturels, ils sont présents et c'est ce qui crée en fait l'internet des sols. Ils vont être capables de faire des réseaux de filaments autour des racines pour aller accompagner la plante dans son alimentation, puisque le réservoir alimentaire de la plante, c'est le sol. Encore faut-il qu'elle puisse attraper ces éléments nutritifs. Et donc, bien sûr, réseau va démultiplier la surface d'échange et permettre à la plante de mieux se nourrir et donc aussi de mieux se défendre et de s'adapter à des stress hydriques en ayant une humidité qui est maintenue à proximité. Et donc dans des terrains agricoles ou modifiés par la main de l'homme, ces champignons vont être moins nombreux et donc on ne va plus bénéficier de cette association, de ce mariage heureux entre la plante et les champignons. Donc nous on vient les régénérer, les réensemencer.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier vos champignons? Des champignons mycorhiziens?
Oui. Alors, ce sont des champignons microscopiques, hein, on n'est pas sur des cèpes ou sur de la truffe non.
D'accord.
Plus. Ce sont des champignons qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, malheureusement, mais qui font un travail incroyable et qui vont en fait avoir cette capacité particulière à s'associer avec les racines des plantes. Ils font vraiment un prolongement de la racine et ils vont venir être un chemin de distribution de l'alimentation du sol à la racine.
Mais c'est-à-dire que par rapport à un réseau de champignons classiques, le vôtre va être plus dense, vous allez proposer quelque chose de plus intense, de plus fort?
Nous, en fait, ce qu'on va proposer par rapport à ça, c'est qu'on va venir, on a une biodiversité de ces champignons. On estime aujourd'hui qu'il y a peut-être 300 espèces, mais vous savez, le sol est encore une grande inconnue aujourd'hui.
300 espèces de ce type de champignons.
De ce type de champignons, exactement. Et donc, nous, on va venir caractériser, isoler ces champignons. On a une collection de ces champignons et on est donc capable ensuite de développer et de produire des cocktails d'associations d'espèces qui vont être adaptés, vous le disiez, à une culture de vigne, à de la lavande. Ça va pas être les mêmes champignons qui vont être importants à installer à cet endroit-là et c'est ça qu'on fait, nous.
Je produis des tomates. Oui. Que peuvent m'apporter vos champignons ?
15% de rendement en plus sur vos tomates, en ayant besoin de moins les arroser, de moins apporter aussi d'engrais, les fameux NPK qu'on utilise tous dans nos potagers même. Donc on réduit les charges, on augmente les revenus avec plus de production, et moins de besoin en eau, et moins de stress hydrique sur la plante. Et des tomates de meilleure qualité nutritionnelle et gustative.
Est-ce qu'il y a des conséquences sur les maladies ou pas, ou les plantes sont toujours sujettes aux maladies de la même façon ?
Alors la conséquence de la maladie, l'interaction directe, elle n'est pas complètement connue aujourd'hui. Il y a encore des fronts de science à découvrir sur ces organismes, mais globalement la plante, elle est quand même, elle a un système immunitaire qui est boosté. Donc elle va permettre d'être plus résistante à certaines maladies sans qu'on connaisse exactement le chemin exact qui fait cela.
Comment ça se passe pour vos clients ? Ils vous appellent, vous venez faire un diagnostic sur place. Ça dépend de la parcelle, ça dépend de l'altitude, ça dépend de la région.
Exactement, c'est multicritère et donc c'est là aussi où nous on utilise l'intelligence artificielle pour nous aider à pouvoir accompagner nos clients dans un choix de produits qui va être adapté à leurs enjeux. Et donc on a développé une gamme de produits qui sont capables d'avoir un aspect efficace dans certaines conditions de climat, de territoire, type de sol et filière. Donc on croise ces données-là.
Vous rentrez ces données dans un outil d'intelligence artificielle, il vous donne un résultat. Il vous dit c'est peut-être tel champignon qui va être plus adapté qu'un autre.
Tout à fait. L'idée c'est vraiment d'être dans de la thérapie ciblée et adaptée puisqu'on n'a pas un sol mais on a des sols et on n'a pas une agriculture mais des agricultures. Donc on sort d'une approche générique pour une approche ciblée.
Comment est-ce qu'ils se présentent ces champignons ? C'est de la poudre ? C'est du liquide ? Enfin concrètement comment ça marche ? On répand de la poudre de champignons sur le sol ?
Ouais, l'idée c'était au final d'avoir un produit qui soit simple d'usage. L'idée c'est de ne pas rajouter de la charge d'investissement à l'agriculteur pour appliquer cette solution. Donc ça va être de la poudre, des granules, des pellettes qui vont s'appliquer comme d'autres traitements classiques et qui s'insèrent de manière transparente dans l'itinéraire de culture de l'agriculteur.
Sylvie nous appelle du Finistère de Pont-l'Abbé. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi, c'est quand j'ai entendu parler de la ferme numérique et de l'IA que j'ai réagi, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est une grosse consommatrice de minerais, d'électricité et d'eau. Donc, une grosse consommatrice d'eau. Donc, ça me donne un peu l'impression qu'on va économiser un litre d'un côté, mais qu'on en consomme 10 litres de l'autre pour l'économiser le 1 litre. Donc, je vois franchement pas l'intérêt. Je pense qu'on ferait mieux de prendre le problème plus en amont et de cultiver autre chose. Notamment, je pense au maïs qui est gros consommateur d'eau. Qui est pour nourrir les vaches, on ferait mieux de les mettre au pré et de revenir, de laisser tomber un peu notre système agricole industriel et de revenir à des choses plus petite.
Merci Sylvie pour cette question. Justine Lipuma, l'IA, grosse consommatrice d'énergie, est-ce qu'il faut la bannir de l'agriculture ?
Non, mais la remarque est extrêmement pertinente et en effet, déjà, il faut avoir en tête que c'est pas une solution magique qui va faire transformer cette agriculture, c'est un ensemble d'approches et de solutions qui passent aussi par des réflexions profondes d'adaptation, de changement peut-être de certaines cultures dans les endroits. Donc c'est vraiment un changement global qu'il faut mener. Quant à l'IA, oui, il faut être vigilant et il faut se poser la question. Il y a des universités qui ont travaillé sur ces sujets-là, notamment à l'Université de Bordeaux, ils ont pu récupérer en fait de la chaleur générée par les outils de stockage de ces données et qui permettent en fait de chauffer l'eau de l'université et donc d'économiser sur un moyen autre de récupérer la chaleur qui est fournie par les espaces de stockage en la transformant et en l'utilisant. Donc il y a une vraie réflexion sur où on va stocker ces données. Il y a des technologies aussi qui sortent. Moi, je suis dans le Sud-Est, on a une entreprise Polytech qui travaille là-dessus. Donc voilà, il y a des solutions où il faut arriver à trouver cet équilibre, en effet.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire, vous, l'IA nous apporte vraiment beaucoup ? C'est-à-dire que moi, avec ma connaissance de biologiste, avec les connaissances qu'ont mes salariés ou mes collaborateurs, on n'arrivera pas à faire une analyse aussi fine.
En fait, ce qu'ils nous le disent, ce sont les gens du terrain, en fait. Donc aujourd'hui, vous le disiez, la ferme digitale fête ses 10 ans. C'est la troisième année qu'on mène à un hackathon durant 48 heures où on fait se pencher sur des cas d'usage concrets. Est-ce que l'IA générative peut répondre à des questions de cas concrets rencontrés par les agriculteurs dans différentes filières ?
Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui même et demain au salon de l'agriculture.
Exactement. Ils sont aujourd'hui.
On met des cas pratiques devant les intelligences artificielles.
Et on regarde ce qu'ils
en sortent. Et elles trouvent des solutions que nos meilleurs ingénieurs ou microbiologistes comme vous, Justine Lipuma, n'arrivaient pas à trouver ?
En fait, on pourrait le trouver, mais avec beaucoup plus de temps.
Oui.
Donc ça permet d'avoir une réponse beaucoup plus rapide qui arrive. Un des exemples très concrets qu'on avait eu sur l'élevage, on a des zones où en fait les éleveurs n'arrivent plus à avoir de vétérinaires à proximité et ont donc beaucoup de temps avant de diagnostiquer des maladies et des problématiques sur leur bétail. Et bien en fait, ils ont fait comme un Doctissimo et ils ont réuni tous les cours d'enseignement d'école de vétérinaire dans une chatbox qui permet déjà à l'agriculteur de comprendre un petit peu ce qui se passe et d'aller plus vite dans le traitement du problème de son bétail.
Gagner du temps, donc gagner de l'argent aussi. Évidemment. On va parler des financements, c'est très important dans un instant. Mais je vous soumets tout de même la question de Jean-Louis de Marseille. Pourquoi le monde agricole n'a-t-il pas adopté massivement l'usage de vos champignons depuis 50 ans, nous écrit-il. Est-ce que le lobby de la pétrochimie bloque?
Alors, il y a plusieurs sujets, mais effectivement, pour que les approches comme celles qu'on développe sur les champignons mycosins soient largement adaptées, il fallait qu'ils soient prouvés comme étant efficaces. Et en fait, les premiers produits qui sont sortis n'ont utilisé qu'une seule espèce de ces fameux 300 champignons. Et il se trouve qu'elle n'était pas efficace partout, parce qu'elle ne peut pas s'adapter dans tous les environnements. Et
donc nous, ça marche maintenant, si on a une gamme de champignons
exactement, large. Exactement. Il faut tenir compte de cette biodiversité pour avoir des produits qui soient réellement efficaces dans les différentes conditions. Et donc, je pense que demain, et c'est notre enjeu, les acteurs vont adopter massivement des solutions à partir du moment où on leur prouve leur efficacité concrète.
Et là, votre banque de champignons, si je puis dire, elle est assez remplie?
Oui, on est la plus grande biobanque de champignons en Europe. On est encore en train d'intégrer de nouvelles espèces et de l'augmenter pour qu'elle devienne la plus grande biobanque mondiale en termes de diversité d'espèces.
Alors, l'argent, vous venez de procéder à une levée de fonds de 16 millions d'euros. Ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent pour l'instant depuis 10 ans?
Alors, nous, on génère...
Vous dégagez du bénéfice ou pas?
Non. On est sur des cycles longs. Hein. L'agritech, globalement, est sur des cycles de 10 ans, notamment quand vous êtes sur du vivant, parce qu'il y a déjà aussi le temps du vivant qui est long. Pour avoir des mesures d'efficacité, c'est un cycle végétal par an. Donc, il faut, pour pouvoir cumuler des résultats et se dire « Ok, on y va », il faut parfois 4-5 années de recherche et d'expérimentation. Donc, c'est du temps long et du temps qui nécessite en effet des moyens financiers pour accompagner ces entreprises de l'idée, de la création, jusqu'au produit applicable et diffusable à tous à un prix qui sera acceptable. Pour ça, il faut faire tout le processus d'industrialisation aussi des approches.
Un prix qui sera acceptable, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus cher que les engrais?
Non, aujourd'hui, nous, on a réussi à atteindre ce sujet-là qui était important pour nous, c'était de mettre sur le marché. Alors, bien sûr, on a des produits en développement aujourd'hui, mais nos produits qui sont actuellement sur le marché, avec nos distributeurs, nos producteurs, sont avec un retour d'investissement positif pour les agriculteurs. En tomates, on en parlait tout à l'heure, pour 1 euro investi, c'est 8 euros de retour investissement pour l'agriculteur.
Quand est-ce que vous espérez être à l'équilibre et commencer à gagner de l'argent ?
2028, c'est notre objectif. Là, on rentre dans une nouvelle phase de développement industriel qui devrait nous permettre d'atteindre cet équilibre à horizon 2028.
2028, est-ce que vous parvenez facilement à lever des fonds ? On sait qu'il y a d'autres pays, comme les États-Unis, comme Israël, qui sont en avance sur cette agriculture-là. Où est-ce qu'on en est en France ?
C'est tout l'enjeu de la ferme digitale, c'est d'essayer de faire...
Alors ça, c'est l'association qui regroupe en fait toutes les entreprises comme la vôtre qui sont spécialisées dans cette agriculture 2.0, Agritech, les nouvelles technologies de l'agriculture.
Oui, tout à fait. Cette association, on l'a dit, c'est plus d'une centaine de membres, dont 80 startups qui sont sur toute la chaîne de l'innovation, de l'amont jusqu'à l'aval, sur toutes les filières. Et notre enjeu, c'est de démontrer qu'il faut qu'on ait des investissements forts en France et en Europe pour qu'en effet, cette Agritech qui est issue de la performance, il ne faut pas l'oublier, de nos instituts de recherche français... comme l'INRAE notamment, qui permet de voir émerger...
Vous avez un partenariat avec l'INRAE.
Exactement. Nous sommes sur un partenariat solide avec l'INRAE qui nous permet de renforcer ce lien de l'innovation, puisque pour avoir de l'innovation, il faut décrypter des connaissances de recherche qui ensuite serviront à l'innovation, qui ensuite amènera des solutions concrètes aux agriculteurs. Et ça, c'est un chemin qui nécessite des financements. En effet, on a des pays américains, des pays asiatiques qui arrivent de manière très forte sur les marchés financiers. Il faut qu'on arrive à structurer des fonds européens solides, capables non pas que de financer le début, mais aussi d'accompagner dans la durée les entreprises.
On a des auditeurs très connaisseurs, Justine Lipuma, c'est Geoffrey qui nous écrit « Je travaille dans les vignes, le plus gros ennemi de la vigne, c'est le champignon. » Nous dit-il « Comment votre engrais peut-il marcher dans des sols déjà chargés en fongicides ?»
Oui, donc en effet, il y a une notion de s'adapter avec les différentes contraintes. Donc un fongicide, c'est un produit, comme son nom l'indique, cid, donc qui est là pour tuer des champignons et qui ne va pas sélectionner les bons ou les mauvais champignons. Donc en effet, ça va être un sujet. Maintenant, on peut travailler déjà à une notion de timing, c'est-à-dire de ne pas mettre au même moment les fongicides que les champignons qui, eux, vont apporter des solutions. Et tout est question de dose, de formulation et de produit. Donc l'idée, c'est de... Et c'est pour ça que l'agriculture de demain... C'est une agriculture qui va nécessiter de l'intelligence collective. Avant l'intelligence artificielle, ce sera de l'intelligence collective. Et l'agriculture de demain, ce n'est pas juste une agriculture de précision, ce sera une agriculture de connaissance. Mieux connaître son sol, mieux connaître ce qu'on y apporte pour mettre les bons éléments au bon moment.
Est-ce que ces nouvelles technologies, elles peuvent être une réponse, Justine Lipuma, à la difficulté de transmettre les exploitations et au fait qu'on va vers une France avec de moins en moins d'agriculteurs? Il y a de moins en moins de candidats pour reprendre les exploitations.
Oui. Un des présidents d'honneur de la ferme digitale, Hervé Pillot, a écrit dans un de ses livres qu'on faisait reposer le sujet de l'alimentation sur 1% seulement de la population qui sont des agriculteurs, avec une difficulté aujourd'hui en effet sur le renouvellement des générations. On pense que ces technologies peuvent permettre notamment l'attractivité des jeunes qui sont assez friands de ces sujets-là. Et comme le métier a changé, la pénibilité aussi, l'idée c'est de travailler sur la baisse de la pénibilité du travail des agriculteurs et puis la génération de revenus, que ces gens puissent vivre du produit, du fruit de leur travail. Et donc que les technologies puissent leur permettre, et les innovations au sens large, ça peut être pas forcément de la technologie, c'est d'autres types d'innovations, les aident à avoir un métier plus attractif pour les nouvelles générations.
Justement, on ne va pas accroître encore l'endettement des agriculteurs, c'est la question de Jacques des Côtes d'Armor. Il nous dit les pousser à s'équiper d'outils dont on ne sait pas s'ils vont vraiment les aider. Les technologies précédentes, si je puis dire, symbolisées par le tracteur par exemple, ont conduit à un très fort endettement.
Exactement, c'est un vrai équilibre à trouver encore une fois. Il faut arriver à mettre en œuvre, et nous en tout cas, les startups adhérentes, et Mycophyto en fait partie dans cette lignée-là, on se doit de s'assurer que nos technologies ne sont pas juste une course effrénée à de la tech pour de la tech, mais servent à l'agriculteur et soient acceptables, utilisables et lui permettent de rentabiliser son investissement. C'est un de nos enjeux phares qu'il faut qu'on arrive en effet à être vigilant à ça. Et je crois qu'on est sur la bonne voie et qu'on arrive maintenant à avoir des technologies qui vont permettre à nos agriculteurs d'avoir de meilleurs revenus et de réduction de charges.
Merci Justine Lipuma, c'était passionnant. On a eu énormément d'appels et de messages pour vous aujourd'hui, fondatrice de Mycophyto et vice-présidente, c'est ça, oui, de la France Digitale en plein salon de l'agriculture, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton nous emmène au cœur du laboratoire de la police scientifique de Paris, qui est situé à Saint-Denis. Ces policiers sont 3800 en France. Ils jouent un rôle très important dans les enquêtes, car cette police n'est plus seulement dédiée aux crimes les plus graves, mais elle est mise au service de la résolution de nombreuses affaires. Et ce travail, la directrice du labo de Paris le raconte dans un livre, Le crime parfait n'existe pas. C'est aux éditions du Rocher, signé Christelle Sircoupé. C'est elle qui nous ouvre les portes toute cette semaine. Nous la retrouvons avec notre reporter, Sarah Guibaudot, au rez-de-chaussée du bâtiment où se trouve le cœur de la ruche. C'est là qu'arrivent les éléments à analyser.
Alors, tiens, David. Yes. Donc, messieurs, nous avons bien le scellé numéro 10, le 7, le 8. Si vous pouvez, ici, la date, votre service et une signature, s'il vous plaît.
Christelle Sircoupé, alors est-ce qu'on peut expliquer où est-ce qu'on est ici?
Alors ici, on est à la division d'accueil et de conseil aux requérants, qui est la pierre angulaire du laboratoire, parce que toutes les missions, les réquisitions arrivent ici, accompagnées des scellés. Et les personnels vont enregistrer dans notre logiciel de traçabilité, puis ensuite vont les ranger dans des salles spécifiques, dédiées. L'accès est bien entendu badgé, la température est contrôlée, l'hygrométrie est également contrôlée, de façon à conserver les scellés dans les meilleures conditions.
Moi je travaille au service de traitement judiciaire des accidents. Donc on va faire tous les accidents graves et mortels de Paris. Et du coup là, on apporte en fait, la plupart du temps, c'est des kits de prélèvement sanguin. Donc ça va être le sang de mise en cause et victime pour venir faire des dépistages d'alcoolémie et pour le stupéfiant.
Sébastien, gardien de la paix.
Ce qui va être sur un accident, il va y avoir un choc. Il va y avoir des échanges de peintures qui vont être faites. Et sachant que chaque constructeur a une peinture, un code couleur peinture précise, il est possible de retrouver ce code couleur via des analyses et donc retrouver potentiellement une marque de véhicule avec juste un petit débris de peinture. Donc tout ça, on les amène ici.
Oui, c'est un gros volume pour le laboratoire de police scientifique de Paris. Nous recevons environ 1100 échantillons par mois pour analyser.
Il y a quoi là-dedans?
C'est une affaire de délit routier. Donc nous avons housse de coussin, tissu d'assise, tissu du dossier, un appui-tête et un airbag.
Bonjour, vous venez déposer de la sécurité routière également? Ok, donc ce sera par là. Alors je suis Nathalie Mellon, je suis chef de la Dakar, la division de l'accueil et du conseil aux requérants. Comme vous pouvez le voir en haut du guichet d'accueil, on a des espaces dédiés en fonction du type de scellé qu'on réceptionne. Par exemple, on recueille complètement à l'extrémité gauche tout ce qui est produits stupéfiants, alors qu'on va de l'autre côté, à droite, réceptionner tout ce qui est prélèvement de sécurité routière, donc pour éviter les contaminations.
Là, par exemple, on a deux policiers qui travaillent sur les accidents de la route. Dans quel délai vont-ils recevoir leurs résultats ?
Assez rapidement, on va dire 3 jours pour ce qui est du tout venant. Et on travaille également beaucoup dans le temps de la garde à vue.
Il y a une dizaine de personnes en ce moment en garde à vue dans notre unité. Oui.
Donc un prélèvement déposé le matin peut permettre d'avoir un résultat le soir. Toute la journée, ça va, ça vient. Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. On arrive encore à être surpris, même après 20 ans PTS. Et j'ai eu, par exemple, un collègue qui m'a demandé si on pouvait faire des analyses toxicologiques pour un cheval. Une histoire d'empoisonnement potentiel. Donc, en cherchant un peu, on a pu lui apporter une réponse. Mais voilà, j'avoue que oui, sur le coup, j'ai été un peu surprise par la question. Au laboratoire, on fait des analyses sur des prélèvements humains, mais pas sur les animaux.
Une semaine dans la vie de la PTS, la police technique et scientifique. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi, 13h50. Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, nous sommes avec vous à Limoges pour parler de choux farcis.
Oui, avec la finale du championnat du monde qui se déroule dans le magasin d'usine Bernardo. Pour ce concours gastronomique, la manufacture de porcelaine a précieusement rangé sa vaisselle délicate dans les buffets et a installé une cuisine éphémère dans un espace de 300 mètres carrés. Fourneau, plan de travail, réfrigérateur, évier, bac à légumes ont remplacé les services à thé. Ambiance top chef depuis 8h30 ce matin pour réaliser le meilleur chou farci de la planète. Alors qui va succéder à Bernadette de Rosario, la chef du restaurant Odette de Singapour? 7 candidats sont en compétition, ils sont cuisiniers et charcutiers et ils ont posé leurs bagages, leurs tabliers et leurs couteaux en Limousin ce week-end. En provenance de Tokyo, Jakarta, Séoul, Saskatoon, Shanghai, Londres et Paris.
Et il y a donc un candidat français.
Il s'agit d'Olivier Caillon, 36 ans, employé chez le charcutier-traiteur Arnaud Nicolas, meilleur ouvrier de France, installé rue Caulaincourt, dans le 18e arrondissement de la capitale. Après un BTS hôtellerie-restauration, Olivier Caillon a cuisiné pour de grandes maisons, le Bristol ou encore le Lutetia. En septembre dernier, il est devenu champion de France du chou farci grâce à la recette revisitée de sa mamie. Son chou est un petit bijou, bien rond, bien brillant. Je l'ai baptisé le chou Marie-Louise en hommage à ma grand-mère. Visuellement, il se présente comme un melon. Je l'ai bien ficelé pour un rendu bombé et charnu. Le secret de son cœur, une farce de cochon au girolle, trompette de la mort, riz de veau, foie de volaille, foie gras, ventrèche du Pays Basque, carottes et céleri. Cette préparation est parfumée aux baies de genièvre, vin jaune et herbes fraîches.
N'en jetez plus. Et c'est cette recette, Cécilia, qu'Olivier Caillon soumet en ce moment au jury ?
Oui, à quelques détails près, les girolles ont été remplacées par des champignons crème et tous les candidats ont impérativement présenté une sauce végétale à la demande du président du jury, le chef Philippe Etchebest. Pendant que nous avons l'eau à la bouche, les jurés sont à table, les chanceux. Parmi les goûteurs se trouve Elisabeth, l'épouse américaine de Michel Bernardo, qui représente la 5e génération à la tête de l'entreprise familiale. Ma femme est une cuisinière semi-professionnelle. Lui se définit comme un bon vivant. Quelle alliance savoureuse, ce plat populaire et paysan. C'est un incontournable du centre de la France. On le cuisine en Auvergne, dans le Vivarais, le Rouergue et bien sûr chez nous. Le chou farci, à mes yeux, c'est comme notre porcelaine. Un savoir-faire d'excellence qui rayonne à l'international du Canada à l'Asie.
Et le vainqueur du championnat sera connu en fin d'après-midi.
Oui, la remise des prix se tiendra au hall de Limoges, qui seront exceptionnellement ouvertes au public. Au menu, un festin où le chou va trôner en majesté, de la soupe en passant par les ravioles jusqu'au dessert, avec des choux à la crème pour terminer le dîner.
Bien évidemment, merci Cécilia Arbona. Pour ce C'est la France qui nous amène, mais toujours le ventre vide me concernant, à C'est une chanson avec vous Julien Baldacchino. Aujourd'hui, c'est l'un des metteurs en scène les plus en vue du moment.
Olivier Soliveres qui joue à Paris deux pièces qui cartonnent, Amadeus au Théâtre Marigny, la pièce qui a inspiré le célèbre film de Milos Forman, et Le Cercle des Poètes Disparus, auréolé de deux Molières, qui vient de reprendre au Théâtre Antoine avec Philippe Torreton dans le rôle principal et aussi en tournée dans toute la France. La chanson dont il a choisi de parler le ramène des années en arrière à un voyage linguistique aux États-Unis, à la solitude et déjà au monde du spectacle. Olivier Soliveres se souvient de Knocking on Heaven's Door par le groupe Guns N' Roses.
Je devais avoir 16 ans et je suis parti aux États-Unis pour faire 15 jours de trucs linguistiques avec mon correspondant américain dans le Vermont. Donc j'ai débarqué là-bas, il s'appelle Doug, et Doug travaillait. Il travaillait, donc je l'ai pas beaucoup vu, et j'étais tout seul dans cette grande maison, et j'ai écouté pour la première fois cette chanson, parce que c'est ce qu'il écoutait, et je m'en souviens vraiment très très bien. J'ai écouté voilà les Guns N' Roses à ce moment, tout l'album, dont cette chanson. Mama,
entendre un morceau seul quand on est un peu déraciné, qu'est-ce que ça change, ce moment de solitude?
C'est sûr et certain, je me raccrochais à cette solitude-là, justement, à ça, j'avoue, je m'ennuyais un peu. J'étais toute seule, c'était une grande maison, au milieu d'une forêt, mais vraiment, il n'y avait rien. Et les parents travaillaient, mon correspondant travaillait. Ça m'a aidé, je pense, ça m'a fait du bien. Je pense que je ne comprenais pas toutes les paroles tout de suite, mais du coup, j'ai commencé à regarder, etc. Et puis, ouais, ça me faisait du bien. Je vois exactement où j'étais la première fois que je l'ai entendu. Et ouais, je chantais tout seul dans cette grande maison, dehors, en jouant au basket. Je mettais la musique à fond et ouais, c'était comme un compagnon. Voilà. Les Guns N' Roses, c'était un compagnon, des compagnons pour moi à ce moment-là. Et surtout, ça m'a amené ce voyage et cette chanson à aller à Broadway, puisque ses parents savaient que j'aimais le théâtre, etc. Et m'ont fait le plaisir et la chance de m'amener à Broadway voir un spectacle. Quelle claque monumentale. Oui, j'ai vraiment vu du spectacle et je suis vraiment j'ai tout de suite eu envie de faire ça.
Et à ce moment-là, le théâtre, vous aviez déjà ça en vous?
Oui.
Ou c'est vraiment là que c'est né? Théâtre, il y avait déjà.
Le théâtre, je l'avais déjà. Je faisais du théâtre depuis l'âge de 9-10 ans grâce à ma maîtresse d'école, Madame Tabi, que je cite dans toutes les interviews. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé faire. Mais L'Homme de la Mancha, Broadway, ça a été une révélation sur le côté spectaculaire, sur le côté spectacle, grand spectacle.
Et ça, vous l'avez gardé dans votre création aujourd'hui?
J'espère, oui. En tout cas, c'est ce que je recherche. Feels like I'm knocking on heaven's door wall. Knock, knock, knocking on heaven's door wall. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door wall.
Vous avez gardé contact avec Doug et sa famille?
Pas du tout. Non, malheureusement non. On l'avait invité à revenir faire le trajet inverse quelques mois après, mais il a pas pu venir, non. Mais ouais, ça serait rigolo de le revoir. Non, parce que vraiment, c'est un voyage qui a vraiment changé. En revanche, j'ai gardé contact avec Madame Tabi, ma maîtresse de l'école.
Bon, ce titre est une reprise d'un standard de Bob Dylan, Julien, qui a donné lieu à des centaines de versions.
Et qu'Olivier Soliveres écoute encore aujourd'hui, car ses playlists inspirent très souvent ses spectacles.
Oui, c'est très important, je pars de ça même. Quand je crée mes spectacles, je pars de la musique. Je me fais une playlist. Vous prenez mon portable, vous allez voir tous mes spectacles. Il y a chaque playlist. Il y a playlist Amadeus, playlist Sherman Hansen, playlist Pinocchio. Je pars de la musique, vraiment, pour me mettre dans l'ambiance de ce que j'ai envie de montrer aux gens.
Et cette chanson des Guns N' Roses, elle est dans une des playlists d'un spectacle qui a existé ou d'un spectacle peut-être à venir dont vous rêvez?
Elle n'est pas dans un spectacle. Non, mais oui, c'est possible qu'elle le soit dans un prochain.
Mmh. Knocking on Heaven's Door par les Guns N' Roses. C'était le choix, Julien, d'Olivier Soliveres.
Avec le Cercle des Poètes Disparus, en tournée dans toute la France, avec par exemple cette semaine à Voiron, le 12 mars à Caluire et Cuire et le 14 à Issoire.
Ça marche même avec les cheveux courts. Merci Julien, je vous dis à demain.